Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediapart. Nous allons aujourd'hui revisiter la première des révolutions qui a secoué le monde arabe il y a 10 ans. Celle dont on dit qu'elle est une anomalie, une exception, un laboratoire, parce qu'elle est la seule à avoir véritablement débouché sur un processus démocratique. Le 17 décembre 2010, la mort par immolation du jeune vendeur ambulant Mohamed Bouazizi a provoqué des manifestations sans précédent en Tunisie, puis la chute d'une dictature, la chute du régime de Ben Ali. L'exemple tunisien galvanisera les Égyptiens, les Marocains, les Yéménites, les Libyens, qui reprendront le même slogan « Le peuple veut la chute du régime ». Où en est, 10 ans plus tard, l'apprentissage de la démocratie en Tunisie? Comment est-il percuté par la grave crise économique et sociale dont le pays ne se sort pas et qui affecte en premier lieu la jeunesse qui constitue la moitié de la population tunisienne? On en parle avec mes deux invités. Khadija Mohsen Finen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Maghreb contemporain, l'autrice de nombreux livres consacrés à cette région. Le dernier sort tout juste de l'imprimerie. Tunisie, l'apprentissage d'une démocratie, 2011-2021. C'est aux éditions Nouveau Monde. Notre deuxième invité est en direct de Tunis. Bonjour, Olfa Lamloum.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse, directrice du bureau tunisien de International Alert, qui est une ONG qui soutient le processus de transition démocratique en promouvant l'inclusion des groupes exclus et marginalisés en Tunisie. Vous avez réalisé en 2017 avec Michel Tabé un documentaire qui est visible sur YouTube, Voices from Catherine, Voix de Catherine. Vous êtes partie 6 ans après la chute de Ben Ali à la rencontre des habitants de ce gouvernorat. Catherine, c'est une région frontalière de l'Algérie, dans le centre-ouest, et ça a été l'un des fiefs de la révolution de 2011. Vous avez été rencontrer des paysans, des jeunes diplômés chômeurs, des enfants, des femmes, des jeunes qui vivent de la contrebande, des artistes. Tous vous racontent leurs conditions de vie entre espoir et désillusion. On regarde un extrait. خلي موت مادام مازال يتنفس قصريني ابتع لازيد وبخور وهزو للحبس بوهالي شد بيرو كل بهيمي نكس والوالي تغيرني بلادي ماشية في العفس زوالي خلي موت مادام مازال يتنفس قصريني ابتع لازيد وبخور وهزو للحبس بوهالي شد بيرو كل بهيمي نكس والوالي يجوا شوفوا عيشوا معنا حتى لحظات فقر والزاز حاكم يدز ولي عامل نصبه يسترزق ويكسب في قوته يتهز يعلم بيه ربي يخدم بالشوك اللي يموت موش عشبع هذاك علاش شخلى التلميذ يقتل اللي على المقرى شخلى برهان يقتل ميسان أبر مكتوب فما أسباب فما أسلوب باش تفهم شباب شي حب وضعه نخليه ينهب ويسرق يتلز موش باش يرثب مينوت في ديه فقري شالق بيكم تسكتوا فيه بلغة حذاير وراضي مكتب قالك ما تعطينيش علمني كيفاش نجيب كيفاش نصنع في بلادي ونبني ونعلي ونتعيش وما نحسش بروحي غريب لا بس. Mon pays m'attriste tellement il est piétiné, pauvreté, miroir et pouvoir qui nous bousculent. Ce jeune rappeur chante un désespoir immense, celui-là même qui avait entraîné la révolution de 2011. Les habitants de Catherine, en particulier sa jeunesse, ne vivent donc pas mieux 10 ans après la révolution, Olfa?
D'abord, je voudrais dire que le gouvernorat de Catherine est un gouvernorat emblématique de la révolution et emblématique aussi si on veut regarder, faire le bilan de la révolution, de ces 10 ans de révolution. Emblématique à 2 titres. D'abord parce que c'est un gouvernorat qui a, comme vous l'avez signalé, été le deuxième berceau de la révolution. La révolution a commencé à Sidi Bouzid et puis le deuxième territoire était Catherine. Catherine a donné le plus grand nombre de martyrs pour la révolution. Donc les attentes étaient très importantes, les espoirs, etc. Catherine est important comme gouvernorat aussi, ce gouvernorat d'un 500 000 d'habitants qui est justement à la frontière avec l'Algérie, parce qu'il incarne en quelque sorte une fracture fondamentale qui est la fracture territoriale et sociale dans le pays. D'où l'intérêt, l'importance de regarder aussi la révolution à partir de cette marge, marge dans le sens non pas géographique, mais marge sociale, économique, où la relégation est fondamentale, où la paupérisation à Catherine, vous avez des taux de pauvreté très, très élevés qui peuvent atteindre dans certaines délégations 50%. Vous avez un chômage qui atteint 40%, chômage de la jeunesse. Alors, la situation des jeunes 10 ans plus tard n'a pas changé, n'a vraiment pas changé. Et les statistiques officielles et les recherches que nous avons menées en tant qu'organisation le montrent. On a toujours, comme je disais, des taux de chômage très élevés par rapport, y compris à la moyenne nationale, le chômage qui touche les diplômés, surtout, ce qui est très paradoxal. On a une jeunesse dont plus de 66% à Kasserine sans couverture sociale. Et vous imaginez, avec aujourd'hui, avec la crise sanitaire, du Covid, etc., vous avez 70% jusqu'à nos jours des jeunes non scolarisés qui ont abandonné l'école, qui déclarent avoir abandonné l'école. Dix ans après, on a toujours les mêmes mécanismes de reproduction dans ce gouvernorat de la relégation, reproduction de la pauvreté, reproduction de la subalternité en quelque sorte.
Et comment ça se fait que ça ne se soit pas amélioré?
Alors, c'est ce que. Comment ça se fait? Enfin, fondamentalement, ça renvoie aux politiques économiques et sociales. On s'est débarrassé de Ben Ali, mais on a reconduit les mêmes politiques économiques et sociales, c'est-à-dire les mêmes politiques d'austérité, les politiques d'ajustement structurel, de privatisation, une priorité absolue donnée à la baisse de la dette publique et non pas des politiques d'intégration sociale, des politiques de développement de ces régions, etc.
Vous faites le même constat, Khadija ?
Oui, absolument. C'est le même constat qu'il n'y a pas eu d'amélioration, pas de réponse aux attentes sociales dans ces régions qui ont été effectivement qui ont marqué le début de la révolution parce qu'il y a une reproduction effectivement du système et on a le sentiment que pour les gouvernements qui se sont succédés, la révolution et le changement consistaient à se débarrasser de Ben Ali, mais à ne pas aller plus loin et à faire ces politiques qui étaient urgentes à mettre en place. Et effectivement, l'urgence est allée au remboursement de la dette ou autre, alors qu'il fallait effectivement commencer par réduire ces inégalités au niveau régional.
Il n'y a même pas eu une réforme qui aurait été mise en œuvre depuis 2011 et qui aurait porté ses fruits ?
Alors, chaque fois qu'il y a des soulèvements, et ils ont été nombreux dans ces régions, les ministres se sont déplacés. Soit ils ont déplacé des fonctionnaires, soit ils ont répondu à ces attentes en achetant la paix sociale, en leur faisant des promesses, en créant quelques postes. Mais ce n'était pas du tout une réponse pensée, une politique bien construite qui puisse répondre à ces populations, à résorber le chômage fondamentalement. Ça n'a pas du tout été pensé.
Olfa, on revient avec vous à Tunis. Pour vous aussi, il n'y a pas eu de réforme qui a apaisé ou en tout cas amélioré la vie de cette jeunesse?
Justement, je pense que la chanson du rappeur donne vraiment une réponse claire. On a continué d'abord, comme il le dit, à criminaliser les pauvres et la pauvreté, et surtout dans les marges, dans les régions de l'intérieur et les quartiers populaires. On a continué à mettre en place, à redynamiser, à avoir recours au même dispositif précaire, ce qu'il appelle les chantiers. C'est quoi les chantiers? C'est un dispositif de travail, d'embauche très précaire, avec sans protection sociale, avec des salaires, de bas salaires, etc., qui a été mis en place par Ben Ali et qu'on a reconduit après la révolution. Et d'ailleurs, Kasserine est un des plus grands bénéficiaires entre guillemets de ce dispositif, qui reproduit la marginalisation, qui reproduit la relégation. Donc fondamentalement, les politiques sont les mêmes et leurs conséquences sont les mêmes, c'est-à-dire on priorise de nouveau, comme l'a dit Khadija, des politiques d'assistance sociale aux pauvres pour juste absorber, atténuer la conflictualité sociale et évidemment, avec ça, on mène des politiques, des gouvernances sécuritaires aussi pour encadrer ces populations jugées, considérées comme dangereuses.
ce chômage, cet arbitraire, cette misère que nous raconte votre documentaire, est-ce qu'il vaut pour le reste du pays ou seulement pour ces régions déshéritées, marginalisées comme celle de Kasserine? Est-ce que ça vaut aussi pour les grandes métropoles?
Écoutez, enfin, dans les travaux que nous menons, les travaux de recherche quantitatives, qualitatives, etc., c'est malheureusement, Kasserine n'est qu'un exemple hein, parmi d'autres. C'est un exemple, certes, emblématique, flagrant, etc., mais ça donne Kasserine et la situation économique sociale à Kasserine donne à voir ce qui se passe dans les autres régions, dans les quartiers populaires, dans le Grand Tunis, du Grand Tunis, dans les régions, les autres régions frontalières. Tataouine, vous avez peut-être entendu parler, enfin, dans ce gouvernorat du Sud. Donc, nous avons de toutes les façons le même diagnostic pour la majorité de la population, celle qui est à la marge hein, un peu de cette transition démocratique, c'est-à-dire celle qui est reléguée, qui est toujours au chômage, parce que le chômage, c'est un phénomène, c'est un fait structurel, c'est un fait très très important, hein, même au niveau national, au-delà de la région de Kasserine. Et moi, je voudrais juste justement donner un chiffre qui me semble très significatif du revers de ces politiques sociales, économiques, c'est qu'à Kasserine, aussi bien à Kasserine que à Tataouine, qu'à Dawarichère, qui est un quartier populaire du Grand Tunis, quand on pose, et nous avons posé la question à des jeunes âgés entre 18 et 34 ans, s'ils ont été arrêtés ou emprisonnés au cours de l'année 2019, l'année de notre enquête, alors un jeune sur cinq déclare avoir été arrêté. Et indépendamment de la variable travail ou pas, chômage ou pas, etc. Et ce qui aussi, comme je disais, souligne et donne à voir justement, c'est que en l'absence de l'État social, en l'absence des politiques économiques d'intégration, etc., ben, la réponse est la même, celle qui était mobilisée par le régime de Ben Ali, c'est-à-dire des réponses de gouvernance sécuritaire. Voilà.
La colère monte en puissance dans tout le pays. Je regardais les chiffres des manifestations, des protestations en novembre, en octobre. Et ce sont des chiffres qui sont vraiment à chaque fois à la hausse. Est-ce que la jeunesse pourrait à nouveau se soulever à mesure que la précarité économique augmente, s'accentue? Khadija.
Elle se soulève déjà et les émeutes sont très importantes, de plus en plus importantes quand on les compare aux années précédentes. Maintenant, la question qui est posée et que je lis, est-ce qu'il va y avoir une deuxième révolution? Les révolutions ne se font jamais en cascade. Mais les raisons qui étaient déjà là durant l'hiver 2010-2011 sont là. Elles se sont accusées et à cela, il faut ajouter aussi la frustration de ne pas avoir vu ce changement se réaliser. Ce changement auquel ils ont contribué, ces jeunes. Alors, non seulement il n'y a pas de réponse sociale, et ça a été dit par Olfa Lamloum, mais il y a cet aspect sur lequel on devrait revenir de criminalisation. C'est-à-dire que non seulement on n'y répond pas et on ne les comprend pas, mais on les criminalise. C'est-à-dire qu'on juge que ces soulèvements seraient manipulés, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, soit par l'Algérie, soit par les djihadistes. Ce qui fait que cette criminalisation, je vais y arriver, le fait de les criminaliser, ça imprègne la société. Donc même la société est beaucoup moins attentive à ces questions structurelles qui sont économiques et sociales. Donc c'est extrêmement grave parce que pour ces jeunes, il va y avoir d'autant plus un rejet des politiques, des dirigeants, des acteurs politiques, mais aussi d'une certaine manière des élites. Ou de ce qu'on considère être les élites.
Je voudrais qu'on regarde ensemble un autre extrait de Voices from Kasserine.
في علاقتنا بالسياسي بمعنى الشأن الفاعلين السياسيين معناتها السلطة بعبارة أوضح الحقيقة ما هيش علاقة إيجابية بالكل ما هي إيجابية بالمعنى bien sûr ما قلقوناش encore ولكن مش إيجابية بمعنى ما هيش إفيكاس فماش إفكاسيتي فما ساعات واتات مشينا طرحنا أفكار مش أفكار أكثر من أفكار طرحنا مشاريع واضحة المعالم en bonne et due forme مكتوبة كما يحبوها تكتب etc. وما صار شيء دونك اليوم ساعات انا نقول ولينا نخدموا تحت بيان سور سقف الدوله بيان سور سافا دو سوا، ولكن في غفله من السلطه. خاطر الحقيقه كل ما دخلنا في علاقه معها الا واحبطنا الحقيقه معناتها. ياسمين راهي سي ان بارومتر، راهو كيف الامور تبدا سيئه جدا في القصرين، واليوم الامور سيئه جدا في القصرين، راهي تسوء على تونس الكل. لكن جات الدنيا راهو التنميه، راهو لو بلان مارشال اللي حلمت به الناس الكل انطلق من هنا، وراهو انطلق في اقتصاد اخضر. Ça aurait été possible, c'est encore possible.
Chaque fois que nous avons eu affaire aux politiques, nous avons été frustrés, nous dit cette habitante. Khadija, la transition démocratique paraît fragile de par l'ampleur de la crise économique et sociale, mais aussi du fait du politique. Où en est aujourd'hui la situation politique en Tunisie ?
Alors, depuis la révolution, il y a eu des avancées, il y a eu une amorce, il y a eu une démocratie qui était balbutiante, un peu au stade de laboratoire. Ça, on ne peut pas le nier, et je crois qu'il ne faut pas le nier. Mais c'est vrai qu'elle a été fragilisée, d'une part, par la non-réponse sociale à ces questions structurelles, et d'autre part, par un personnel politique qui manquait d'expérience, qui manquait de vision, qui n'a pas profité, par exemple, de ces politiques consensuelles ou de compromis ou de rapprochement entre des factions politiques qui étaient porteuses de projets différents pour construire un projet politique qui est aussi une portée sociale. Tout cela n'a pas été fait et est à mettre très probablement sur l'expérience de la démocratie, sauf que les gens aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre parler de cette démocratie qui ne les nourrit pas, qui ne paye pas leurs factures. Ils veulent du changement, ils le veulent tout de suite et il leur a été promis il y a 10 ans et il n'a pas été fait. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des tensions très grandes entre la classe politique et la société, ce qui dépasse même les jeunes au chômage ou autres. Les tensions sont extrêmement grandes.
Mais alors, Olfa, quel a été l'impact de l'élection l'année dernière, en octobre 2019, de ce président atypique, Kais Saied, qui est un professeur de droit constitutionnel à l'université, qui a donc été élu président, sans parti, ni affiche, ni moyens réels? Quel est le bilan de la première année de cet ovni politique et comment est-il perçu à Kasserine, par exemple, dans ces régions marginalisées ?
Écoutez, un des bilans, moi je l'ai vu hier et aujourd'hui notamment, par des témoignages de jeunes qui ont voté pour lui, qui étaient très enthousiastes pour Kais Saied parce que pour eux il a incarné cette rupture avec l'establishment, etc. Je disais les témoignages sur Facebook aujourd'hui de jeunes blessés de la révolution qui ont été très déçus parce que hier, à l'occasion de ce 10e anniversaire, etc., il y a eu un sit-in à Tunis, sit-in organisé par des blessés de la révolution et des familles de martyrs. Et malheureusement, des blessés ont été tabassés par les forces de l'ordre. Alors, le bilan, on le voit pas, et surtout on le voit pas depuis les régions, ces régions-là, depuis Kasserine. Vous savez, là dernièrement, à partir de l'été, août, septembre, la Tunisie a connu des pics de tentatives ou de migrations irrégulières de jeunes. Et je pense que c'est quelque chose des pics. Très, très important. Vous avez entendu parler de l'autre côté de la Méditerranée, de ces politiques, des coordinations, etc., sécuritaires sur ces questions d'immigration irrégulière. Voilà, un des bilans, c'est toujours cette perte d'espoir. Et la vie des gens n'a pas changé. Comme disait Khadija, la criminalisation des mouvements sociaux est encore là, des protestations, etc. Et vous savez, toujours... Dans un des résultats de notre enquête, on a posé la question à des jeunes, toujours âgés de, enfin la même enquête en fait, âgés d'entre 18 et 15 ans, de 34 ans, sur quel est pour eux le meilleur moyen d'améliorer la situation
des jeunes dans le pays. Et à Kasserine, vous avez 35% des jeunes qui répondent la révolution, une autre révolution dans le pays. Donc voilà, cette relégation économique, sa conséquence est aussi une exclusion politique, parce qu'effectivement, la jeunesse a joué un rôle central dans ces régions pendant la révolution, etc. Mais sauf que ceux qui ont capitalisé, hein, c'est les partis politiques qui occupent aujourd'hui la scène démocratique instituée et qui ont au prix d'une exclusion aussi politique de cette jeunesse. C'est pourquoi, en réalité, la forme centrale de participation politique de la jeunesse est la protestation aujourd'hui. La protestation, la participation dans les sit-ins, etc., pour demander la même chose, parce que ces jeunes précaires, chômeurs, déshérités, etc., ils n'ont toujours pas perdu complètement l'espoir d'imposer leur droit au droit, d'imposer cette promesse de la révolution qui est la dignité et l'emploi.
Cet état de fait, cela va avec l'apprentissage d'une démocratie, le cœur de votre ouvrage.
Jusqu'à un certain point. Vous parliez des élections de 2019. C'est aussi, elle montrait le désarroi de la société de manière générale. C'est-à-dire que il y a eu un dégagisme électoral d'abord qui a commencé en 2018 avec les élections municipales, où les listes indépendantes ont été les gagnantes de ces élections municipales, les premières depuis la Révolution, et 2019 aussi, où on a élu des gens qui étaient extérieurs au monde politique, au Sérail. Et c'est déjà un message. Donc, ils ont élu Qaïs Saïd à une très forte majorité, 72% des voix et même plus, 72,9 je crois, mais parce que c'était aussi porteur d'espoir. C'était quelqu'un qui était censé comprendre la jeunesse, quelqu'un qui voulait renouer avec la promesse de 2011, et ils sont doublement déçus parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de réponse, ils voient que cet homme est décalé. Donc cette mauvaise gouvernance a fait le lit du populisme, et il avait un discours tout à fait populiste, c'est-à-dire cette proximité au peuple, cette manière de monter les élites contre le peuple, etc. Mais il voit que même par ce biais-là, ça ne marche pas, le changement n'est pas au rendez-vous et l'agenda des priorités n'est pas celui auquel il pensait.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour plus de justice sociale aujourd'hui en Tunisie, et puis pour sortir de cette crise économique et sociale, Olfa ?
Je pense que justement, c'est une demande qui commence à prendre forme, à se cristalliser, à être portée de plus en plus par les mouvements sociaux, notamment à Camour, par exemple, dans d'autres régions, par aussi des organisations de la société civile. Une entrée fondamentale, c'est la justice fiscale. Hein, c'est une réforme de la fiscalité. C'est un impôt sur les fortunes. C'est une autre répartition des richesses de ce pays. Parce que vous prenez même Kasserine. Kasserine n'est pas... Il y a des richesses à Kasserine. Il y a du marbre à Kasserine. Il y a une richesse qui est la jeunesse de Kasserine, une jeunesse instruite, hein, qui a fait des études, etc. Mais que l'école devient une... Enfin, est en panne et ne permet plus une ascension, etc. Donc, ce pays, le problème de ce pays, c'est pas le manque, la pauvreté de sa pauvreté, mais c'est un problème fondamentalement de répartition des richesses, voilà. Et puis de droit au droit, hein, de citoyenneté sociale. Tout à l'heure, on parlait de la démocratie. Oui, on est aujourd'hui la Tunisie. Enfin, en quelques années, a montré aussi la crise de la démocratie représentative. Une démocratie qui ne repose pas sur des droits économiques ou sociaux pour la majorité de ses citoyennes et de ses citoyens est une démocratie qui est faible, qui ne représente pas et n'incarne pas les valeurs d'égalité, de justice et de dignité telles que ça a été porté par la Révolution.
Vous diriez, vous aussi, Khadija, que l'exception tunisienne est en danger aujourd'hui ?
L'exception tunisienne est là, parce que effectivement, c'est parce que la Tunisie avait un caractère exceptionnel que les choses se sont faites de cette manière. Simplement, cette démocratie institutionnelle qui a été mise en place, elle est d'abord bancale et elle est en danger. Elle pourrait être emportée. Toute cette transition, elle pourrait dérailler parce que, effectivement, il n'y a pas de réponse économique et sociale, parce qu'il n'y a pas d'attention particulière ni de réforme quant aux inégalités. Ça, c'est une chose très importante. Et les inégalités, elles ne sont pas seulement régionales, elles sont également sociales. Alors, effectivement, il y a un début, une amorce de réponse avec ces prélèvements, cette politique d'impôts, mais il faudrait qu'elle aille jusqu'au bout. Et aujourd'hui, vous avez des riches qui rechignent à payer certains impôts. Donc, il faut un changement culturel qui pourrait effectivement mettre en avant l'intérêt général, la répartition des richesses, les inégalités. Et il faudrait que quelqu'un porte, que les acteurs politiques portent ces projets, qu'il y ait une pédagogie aussi dans ce sens.
On emploie, depuis le début de l'émission, des termes très négatifs pour qualifier ce qui se produit aujourd'hui en Tunisie. Mais tout de même, la révolution et ces révolutions arabes qui ont démarré en décembre 2010, elles ont quand même ouvert un champ de potentialité énorme.
Oui, moi je trouve que on a tort mélanger ces bilans qui ne sont pas bons de transition, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. Ailleurs, c'est pire parce que soit c'est la contre-révolution en Égypte, soit on a sombré dans des guerres civiles. Mais je crois que cela ne devrait pas nous détourner des révolutions. La révolution tunisienne a posé des questions clés. Elle a mis sur la table des questions clés, dont la question des égalités, des inégalités, la question de la dignité, qui signifie beaucoup de choses d'ailleurs, qui signifie un emploi correct, la question de la liberté. Donc tout cela a été, à mon avis, bénéfique. Or aujourd'hui, compte tenu du mécontentement des gens, on a l'impression qu'il y a un mélange et un rejet de la révolution. Or, c'est la manière dont la transition qui a été conduite qui nous a donné ces bilans négatifs. Et je crois qu'il faudrait faire vraiment le distinguo entre ce qui s'est passé, les soulèvements, les expressions des gens. En dehors de ça, la révolution tunisienne, elle a apporté, elle a beaucoup apporté en termes d'élections libres, de liberté d'expression, d'attente citoyenne, de coexistence, qu'on le veuille ou non, entre des gens qui ont des projets politiques et des projets de vie différents. On s'accepte un petit peu mieux. Alors, à cela, il faut ajouter qu'il y a une crise de la démocratie représentative, qu'il y a ces non-réponses à ces questions, mais je crois qu'il faut différencier les choses et je crois que le mauvais bilan ne devrait pas nous faire oublier que la révolution... Il y a une tendance en Tunisie à idéaliser le passé politique, à une nostalgie de la période de Ben Ali, mais je crois qu'il faut être très attentif à ça.
Olfa, vous aussi, s'il fallait aujourd'hui regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, qu'est-ce que vous observeriez, qu'est-ce que vous retiendrez?
Moi, je reprendrai la formule, le hashtag qui circule depuis hier, qui dit la Tunisie demain sera meilleure. Et je pense qu'il a un double sens, ce hashtag, qui est partagé par des jeunes et des moins jeunes qui continuent à croire dans la promesse de la révolution. Il dit deux choses. Il dit que cette révolution, l'histoire de cette révolution n'est pas finie. Ça reste ouvert sur des développements possibles, etc. Parce que elle ne concerne pas que la Tunisie, nous ne l'oublions pas. Je pense que ce qui s'est passé à partir de janvier 2010 a ébranlé profondément et durablement toute la région. Et on l'a vu, même s'il y a eu des contre-révolutions, la fragmentation du territoire de nos voisins libyens, etc., on est toujours dans ce cycle de révolution et de contre-révolution dans la région. Et on l'a vu avec la deuxième vague en Algérie, au Soudan, en Irak, au Liban, arrêtée certes par le Covid, mais il y a encore de l'espoir, il y a toujours cet élan aujourd'hui dans la région et qui existe en Tunisie aussi. Moi, je pense que, indépendamment de la fragilité
effectivement des acquis démocratiques, fragilité due à l'absence de réformes, pas seulement d'ailleurs économiques et sociales, mais aussi les réformes de l'intérieur, de la justice, des médias, etc. Mais indépendamment de ces acquis, pour moi, ce qui est déterminant et très important dans le rapport de force aujourd'hui dans le pays, c'est qu'il y a toujours un élan de résistance. Un élan de résistance porté par les associations de la société civile. Vous savez, tout récemment, on a réussi en Tunisie à repousser une loi qui est semblable à la loi de sécurité globale en France, qui donne l'impunité pratiquement aux forces de l'ordre, etc. Et ben ici, on a gagné cette bataille-là. Ben, peut-être pas pour toujours, hein. Peut-être que cette bataille n'est pas irréversible, mais voilà. L'élan de résistance, je pense que c'est une question super importante, celle-là aussi. L'élan de résistance des familles, des martyrs et des blessés de la Révolution qui continuent à exiger qu'au moins la liste des martyrs de la Révolution soit publiée. Parce que vous savez, 10 ans après la Révolution, on n'a toujours pas une liste officielle publiée dans le journal officiel tunisien. La résistance des mouvements féministes, la résistance, on en a parlé, enfin des chômeurs, des jeunes dans les régions de l'intérieur, etc. La résistance qui s'affirme à travers aussi aujourd'hui une scène artistique, alternative, underground, qui milite et œuvre pour la démocratisation de la culture, pour une création artistique affranchie des contrôles du contrôle de l'État, etc. Donc c'est ça qui, je pense, le principal acquis de mon point de vue, qui conjugue l'espace public tunisien au pluriel, c'est ces résistances-là. Et cette façon-là d'agir et de faire de la politique indépendamment des faiblesses et des failles de la démocratie institutionnalisée.
Les victoires, les résistances, la flamme sont donc toujours là. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous retenez de ces 10 ans, puisque vous êtes l'une et l'autre tunisienne, franco-tunisienne, qu'est-ce que vous retenez ?
Je retiens un grand bouleversement dans la demande des citoyens envers les politiques, l'exigence. Il n'y a pas de résilience, il y a une exigence. Et je retiens peut-être cette culture du compromis, c'est-à-dire une volonté par-dessus tout à sortir des crises et à essayer de trouver des solutions qui émanent de la société.
Bah, écoutez, moi, pendant des années, j'ai été militante d'extrême-gauche. On parlait de la Révolution, mais on parlait dans des cercles très fermés entre nous. J'ai vécu la Révolution, et je pense que ça a été une chose formidable sur le plan personnel, et je pense formidable aussi pour toute une génération de jeunes qui ont fait cette Révolution, qui était pour nous juste une utopie. Donc, c'est une autre génération qui l'a faite, et cette Révolution, indépendamment de ses échecs, de ses failles, etc., elle nous donne encore l'espoir et elle ouvre encore des horizons inédits de changement dans le pays et dans la région, je l'espère aussi.
Merci à toutes les deux. Merci Khadija Mohsen-Finen, merci Olfa Lamloum. Je rappelle que vous avez publié « Tunisie, l'apprentissage d'une démocratie 2011-2021 ». C'est aux éditions Nouveau Monde. Merci Olfa Lamloum. Je renvoie à votre documentaire « Voices from Catherine », c'est disponible sur YouTube et donc en accès libre. Quant à nous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Maghreb Express.